Né.
Ouellette, en direct.
En direct, avec JC.
Ouais, moi, je l'adore.
Et Patricia.
Continue dans ce sens-là, on va aller loin.
Radio X.
La question se pose depuis le début de la journée. On va-tu en avoir une tempête ou on n'aura pas de tempête? Je vous dirais que c'est pas la plus belle journée à l'extérieur. C'est pas la tempête du siècle non plus. Oh. Mais on va voir. Je dirais que c'est en développement, tout ça.
On dit que Lévis Pintante, ça brasse solide. Quelqu'un dit, j'ai dû attacher mon barbecue, il se promène.
Oui, il vente.
Beauport, Vente et Grêle. Saint-Georges, puis Grêle. Trois-Rivières, Three Rivers. Ça dit, c'est juste les vents.
Il y a beaucoup de vent. Ça, c'est clair. Un peu partout dans la vallée du Saint-Laurent.
Sherbrooke.
Oui, mais il pleut, hein, je pense.
Une petite pluie.
C'est plus de la pluie dans le sud, je pense, finalement. Mm-hmm. Puis pour le reste, ben on va voir. Ça tombe. Est-ce que ce sera pire? Est-ce que ce sera moins pire que ce qu'on a prédit? Je sais pas. Mais c'est sûrement pas la tempête du siècle qu'on nous colle depuis deux jours. On va aller jaser avec notre ami, l'économiste préféré de tous les auditeurs de Ouellette en direct. Puis là, c'est Vincent Gelozo qui va être bien déçu. Mais c'est Denis Julien qui est là. Monsieur Julien, comment allez-vous?
Ça va très, très bien, merci. Et vous?
Es-tu dans tempête ou t'es correct? Es-tu en sécurité?
Non,
t'as-tu pris tes trucs, là?
Catherine de la Jacques-Cartier, je regarde par la fenêtre et je vois pas de neige encore. Mais on a un bon... Un matin, je suis allé au village, puis un petit 5 minutes en dedans de quelque chose, puis j'avais les vitres remplies de verglas. Fait que ça glisse, mais on est au nord, hein?
À suivre. Ben c'est ça. On est au nord. À suivre.
À suivre.
Jason, un peu de classe moyenne. Tu m'as écrit quelque chose. Effectivement, c'est quelque chose qu'on entend depuis un certain temps à l'effet que la classe moyenne dans les dernières années, c'était soit amincie, soit éloignée ou soit complètement en voie de disparition. Ben parlons-en. La classe moyenne, est-ce qu'elle existe encore, Denis?
Oui, elle existe, mais les gens de la classe moyenne ont le sentiment qu'ils perdent du terrain, beaucoup.
Ouais.
Puis, ils n'ont pas tort de faire voir qu'il y a un malaise, parce qu'à l'intérieur de la classe moyenne, il se passe vraiment quelque chose, mais c'est pas tant ce qu'on pense. Fait que, mais si on en revient au discours politique, vous voyez très bien que de gauche ou de droite, là, le politicien de droite va dire la classe moyenne a de la misère parce que l'État le taxe trop.
Ouais.
Le pauvre, lui, c'est-à-dire la gauche va dire que la classe moyenne s'appauvrit parce que celui qui est plus riche ne paye pas sa part. Le multimillionnaire, le billionnaire,
donc,
le milliardaire ne paye pas sa part.
Le même constat, mais deux camps carrément à l'opposé.
Oui, puis dans un sens, ils ont tort tous les deux. Ça simplifie trop la chose parce que c'est utile politiquement, comme ce que le politicien fait d'habitude.
Ouais.
C'est pas très nuancé puis c'est pas éclairant non plus. Mais il y a de bonnes études qui sortent depuis un bout de temps et qui montrent autre chose. Par exemple, si on veut définir un peu de quoi on parle, qu'on parle de la classe moyenne, là, c'est, mettons, le revenu médian qui est gagné par le 50% qui est dans le milieu, puis c'est par rapport aux 30% qui gagnent moins, qui sont les plus pauvres, et le 20% qui gagne plus. À l'intérieur du 50% de la classe moyenne, il y a plus de disparités qu'il y en avait avant.
Okay.
Mais vous voyez, par exemple, que ce que la gauche dit, au Québec, ça marche pas. T'sais, parce que si vous prenez les 100 000 et plus, puis vous soutenez qu'ils payent pas leur part, la semaine passée, Michel Girard, c'était évident, là, il dit 13% des contribuables, à peu près 10% de la population, 922 000 contribuables sur une population de 9 millions. Ces gens-là, peu nombreux, 13% des contribuables, payent 72% des impôts sur le revenu.
Et ça, c'est... C'est parce que ça me fait penser aussi à une époque, je sais pas si tu te souviens, dans le temps de Pauline Marois, qui faisait campagne, qui a d'ailleurs eu un petit mandat minoritaire, mais on lui demandait « C'est quoi être riche? » Et elle avait dit, je sais pas, là, 100 000 et plus. Tu sais, je comprends que ça fait un certain temps, ça fait une quinzaine d'années ce que je raconte là, mais même à l'époque, 100 000 $ Denis, c'est pas quelqu'un de riche, là.
Non, mais encore là, tu vois, s'il y a 13% des contribuables qui gagnent 100 000 et plus, t'es pas en train de dire qu'il y a un grand nombre de personnes en classe moyenne qui gagnent 100 000. T'es plus en train de dire que t'es dans la classe moyenne supérieure et plus.
Ben oui.
Puis ce qu'on observe, ce qui rend le sentiment, ce qui a quelque chose de véridique dans le sentiment de malaise des gens de la classe moyenne, le 50% qui gagnent des revenus, c'est qu'à l'intérieur de cette classe-là, il y a beaucoup plus de différence qu'il y en avait auparavant. Aux États-Unis, pour vous donner une petite idée, en 1975, le ménage moyen avec enfants, là, il gagnait 15 000 $.
Ouais.
La classe moyenne supérieure, je ne te parle pas des riches, je te parle de ceux qui sont dans le 50 % de revenus médians, mais ceux qui sont plus proches de passer par-dessus, qui sont en train de s'en aller vers les plus riches, ceux qui sont juste sur le bord, la classe moyenne supérieure, ouais. Elle, au lieu de gagner 15 000, elle gagnait 22 600. Elle gagnait 51 % de plus.
Ouais.
Fait qu'il y avait une certaine uniformité. En 2000, il y a juste 25 ans, le ménage représentatif revenu médian de la classe moyenne gagnait 59 000, mais le moyen supérieur gagnait 99, c'est-à-dire 68 % de plus. Fait que là, tu es passé d'un groupe où il y a plus de disparités. Il y en a, avant ça, le plus riche du groupe gagnait 50 % de plus, puis là, le plus riche du groupe classe moyenne supérieure gagne 68 % de plus.
Ouais, c'est
et
loin.
En 2025, le revenu médian de famille avec enfants aux États-Unis, c'est 130 000, mais le moyen supérieur est rendu à 242 000, c'est-à-dire 85 % de plus. Fait que ce que vous voyez, ce qui est la vérité, c'est que la classe moyenne ne se réduit pas comme on le dit, c'est-à-dire il y a moins de gens dans la classe moyenne puis parce qu'ils s'en vont vers les plus pauvres, puis il y en a de plus en plus qui sont de plus en plus riches, mais c'est pas la classe moyenne qui devient plus riche. C'est pas ça. Ce qu'on voit, en gros, c'est qu'il y a plus de classes moyennes supérieures qui sont en train de s'en aller ou qui sont allées vers les plus riches, ce qui est bon.
Ouais.
Mais le sentiment de malaise chez les gens de la classe moyenne, c'est que si... Prends un exemple. T'es dans une rue, t'es celui qui gagne le moins, mais t'es encore dans la classe moyenne. T'as la maison la plus petite, à côté de grosses maisons de style mansion. Et ils sont aussi dans la classe moyenne, mais dans la classe moyenne supérieure. Ils font deux voyages par année, t'en fais pas un. T'as un petit char, ils ont deux chars.
Mais vous êtes considéré dans la même classe, entre guillemets.
Oui, bien, statistiquement, t'es dans la même classe.
Ouais.
Parce que t'es dans le 50% de gens qui sont dans le milieu revenu bien, mais ça veut pas dire qu'il y a pas de large différence. Fait que ce qu'on laisse voir, c'est-à-dire qu'il y a des gens de la classe moyenne qui ont rétrocédé puis qui sont rendus les plus pauvres, c'est pas vrai. Ce qui est plus, c'est que tu as plus de gens à l'intérieur de cette classe-là qui est dans la classe moyenne supérieure, puis tu en as plus qui sont passés de l'autre côté et qui sont pas des multimilliardaires, mais le système a fait que les choses se sont améliorées en gros. Mais le malaise, lui, il est persistant parce que c'est pas complètement fou, c'est pas hors réalité. Il y a une perception de me semble que moi, je fais pas le rattrapage que j'observe dans mon environnement.
Ben moi, on le vit tous, là, on a tous notre ressenti, je vais le dire demain, c'est à la mode comme mot, là, mais tu sais, on a tous notre ressenti versus notre situation puis comment ça va économiquement. Moi, j'ai l'impression que mon dollar vaut moins qu'une couple d'années. Puis je le ressens dans mes paiements, je le vois passer. Je dis, tabarnouche, je me semble que c'est plus serré que c'était, puis c'est plus tough. Pis est-ce que c'est moi qui est dans le champ? Parce que j'ai envie quand même un peu de défendre ce que tu donnais au début comme affirmation. Moi, j'ai souvent le réflexe de me dire, parce que je regarde mes rapports d'impôts, puis je regarde mes talons de paye, j'ai quand même le sentiment que le gouvernement m'en prend beaucoup, beaucoup, là. Fait que je me dis toujours, écoute, je comprends que c'est serré, puis l'inflation, puis tout ce que tu veux, mais si le gouvernement m'en donnait ne serait-ce que 20 % de ce que j'y donne, ça irait beaucoup mieux dans mon cas, tu sais. Donc, c'est pas... Ce que tu dis, c'est que c'est pas faux comme affirmation, mais c'est pas total et complet.
Bien, en fait, c'est qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose. C'est que les gouvernements ici, qui sont extrêmement présents, ils ne sont pas en train de donner quelque chose aux riches. Ils sont en train de donner quelque chose aux 40 % qui ne payent pas d'impôts ou presque pas, parce qu'ils sont nombreux, puis à ceux qui sont dans la classe moyenne, parce qu'ils sont nombreux. Tu sais, les programmes sont surtout faits pour la classe moyenne. Quand tu regardes les impôts payés puis tout ce que tu reçois comme service, même si ce sont de mauvais services, c'est des services demandés par la classe moyenne. Le riche, il n'est pas assez nombreux pour qu'on s'en préoccupe. La preuve, on lui fait payer 72 % des impôts, puis on ne lui donne pas de service. Moi, j'ai payé beaucoup. Je n'ai même pas eu de médecin au public. Puis plein de gens que je connais ne payent pas une scène d'impôts, puis ils en ont un, parce qu'ils ont réussi à attendre assez longtemps pour ça. Fait que il y a un malaise qui est réel, mais c'est quelque chose qui est d'un autre ordre. Je voulais donner quelque chose qui était aussi de l'ordre des bonnes nouvelles, parce que dans Human Progress, je sais pas si tu as déjà visité ça, c'est sur X, c'est un beau blog, entre autres, là. Ils ont fait quelque chose sur l'immobilier, parce que je reviens souvent à l'immobilier, parce que l'immobilier, ta maison, ce que tu possèdes comme appareil, comme meuble et tout ça, c'est très, très, très corrélé à ton bien-être. Tu t'es bâti un environnement comme tu le veux. Et eux, ce qu'ils veulent voir, ce qu'ils dénonçaient, c'est qu'il y a un mythe dans l'âge d'or de l'immobilier qui serait celui des 30 glorieuses, par exemple, entre de 40, fin de la première guerre, la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 70, disons, les chocs pétroliers. Il y a un mythe qui perdure de dire que c'était plus facile l'accès à la propriété dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Les maisons étaient.
C'est pas vrai, ça.
C'est pas tout à fait vrai.
Mais c'est quoi les histoires? Parce que j'ai entendu des histoires de gens qui ont acheté des maisons dans les années 70, pendant 5-6 ans, c'était payé.
Bien, moi, j'ai pas vu ça. Moi, j'ai pas vu que c'était payé en 5-6 ans. C'était des hypothèques. Puis j'ai vu dans les années 70-80 des taux d'intérêt à 20%. J'ai travaillé dans une caisse populaire comme étudiant. Le babillard était plein de maisons à revendre.
Oui. Mais il y avait des maisons à 20 000. Tu avais des maisons qui valaient le salaire, ton salaire annuel. T'sais.
C'est ça. Mais ça, c'est vrai ce que tu dis. Mais en gros, c'est qu'on n'a pas aussi les mêmes maisons. Tu as donné une idée? En 1956, une maison médiane, c'est-à-dire tu es en plein 1956, là, dans la belle période, l'âge d'or.
Ouais.
Ça avait 1150 pieds carrés.
Ouais,
pour
c'était
la
pas
maison
même enfin.
Médiane. Ouais. En 2024, c'est 2210 pieds carrés.
Ouais, ouais, ouais.
Fait que la maison a presque doublé. Mais il faut aussi considérer qu'il n'y a pas le même nombre de personnes par maison. Chacun a plus de pieds carrés. En 1956, tu avais 3,3 personnes par maison. Aujourd'hui, tu en as 2,51. Ce qui veut dire que la vraie, vraie augmentation de l'espace occupé par chaque personne est de 153% d'augmentation. On n'a pas les mêmes maisons. On n'a pas des bungalows comme tout le monde avait. Il y a vraiment une différence. Et pour le grand nombre, ça s'est amélioré. À l'heure actuelle, à court terme, et tout simplement parce qu'il y a des endroits où on empêche de construire, comme ici, parce que nous, on est, je le rappelle tout le temps, ce qui ressemble le plus au Québec, c'est la Californie.
Ouais.
Dans ses valeurs, dans ses échecs, dans sa manufacture de la rareté du rationnement. Par exemple, la semaine passée, je lisais qu'en Californie, quand tu vois les maisons qui changent de nom, là, c'est-tu parce que le changement de propriétaire s'est fait par vente-achat? Bien, en Californie, 18% des transferts de propriété d'un nom à un autre, d'un propriétaire à un autre, ça se fait par héritage. Parce que si tu n'hérites pas de ton père la maison,
t'en as pas.
Ben, tu ne l'auras pas. Tu n'es pas capable de l'acheter. Tandis que la moyenne de ça aux États-Unis, c'est 9%. Fait qu'aux États-Unis, 9% des changements de propriétaire se font par héritage, tandis qu'en Californie, c'est le double. Parce que tu as fait en sorte que l'immobilier est devenu artificiellement difficile à acquérir pour les jeunes familles. Mais ce qu'on a à voir là-dedans, c'est que la marche normale des choses, la productivité, l'augmentation des revenus, parce qu'aux États-Unis, l'augmentation des revenus est supérieure à l'augmentation des coûts de ton espace occupé avec tes meubles et tout. Puis là, je parle de la maison, mais tous les meubles, c'est pareil. Tous les meubles, c'est pareil.
Ouais.
Tout ce qui te prenait 2 heures à acheter avant a été réduit de plusieurs minutes. Fait que ça, c'est incontestable. Mais ce qui arrive à certaines personnes, par exemple, le Californien se sent très différemment traité du gars qui vit en Floride, c'est juste les gouvernements. La même chose ici. Et vous voyez, c'est il y avait un article hier sur Londres qui est devenu une ville où on pense qu'un jour, il y aura de moins en moins d'enfants. Parce que tu ne peux pas élever un enfant à Londres. Ça coûte trop cher. Ouais,
j'ai
avoir
vu ça. Londres pourrait devenir une ville sans enfants. C'est capoté pareil.
Il y a des écoles qui ferment parce qu'il n'y a plus personne qui peut vraiment espérer.
Mais ça, Denis, là, tu sais, puis il faut se laisser, là, mais ça, là, à quel point il faut le dire souvent pour qu'un politicien comprenne ce que tu viens de dire? Parce que j'ai l'impression que ça ne rentre pas pantoute.
Mais je pense que ça se dit plus qu'avant. Je pense qu'il y a plus de personnes qui le disent avant. C'est pas.
Mais ça, mais semble tu le dis sur... une fois, les polythyrènes seraient supposés d'allumer, là.
Oui, mais pourquoi que, en même temps, là, c'est parce que je vous entends, là, mais je regardais ceux qui se renouvellent là, de façon naturelle. Tu as le continent de l'Afrique avec des pays très ciblés qui ont un renouvellement naturel de la population parce qu'on fait des enfants plus que ce que demande la moyenne. Puis au Moyen-Orient aussi. Donc, comment se fait-il que des endroits de cul, sa planète, qui eux autres vont faire plein de bébés, puis nous autres, on dit « Ah, loyer trop cher, on n'en fait pas! »
Bien, en gros, on fait plus de bébés dans les pays plus pauvres parce qu'avoir des enfants qui vont prendre soin de toi plus tard, c'est une espèce d'assurance. Ouais. Tandis qu'ici, l'État ponctionnant tout le monde, mais leur faisant croire que tout est padé pour eux. Il n'y a personne qui se dit... Parce que moi, on a déjà souvent parlé de la famille. Pour moi, la famille, c'est encore, à part tous les autres aspects, c'est encore le meilleur système de secours mutuel. Moi, je vais aider ma fille avant d'aider un étranger. Ma fille va m'aider si j'en ai besoin avant d'aider un étranger. C'est encore ça. Dans des sociétés traditionnelles où il n'y a pas de système de retraite et tout, où il n'y a pas de welfare state, c'est normal que tu te dises, ben moi, j'aurai des enfants parce que j'augmente mes chances de ne pas être abandonné plus tard. C'est la grande différence.
C'est une mentalité que je comprends.
C'est pas mal de riche.
Puis je comprends absolument ce que tu dis, mais moi, tu sais, moi j'en ai trois, là, puis les trois soit dans l'adolescence ou tout proche, là, puis je vous le dis, puis je fais un lien avec l'entrevue que tu as faite avec Marois Risky. Ouais. Tu sais, le Québec n'a pas une fiscalité, puis on n'est pas fait, on dirait qu'on ne veut pas vraiment. Mm. Moi, j'en ai trois, là, je vous le dis, là, tu sais, puis ça, c'est décourageant, puis j'essaie de ne pas trop le dire, mais ça coûte cher en sacrifice.
Oui. Ah, puis, mais ça, c'est véridique, là. Mais, tu sais, moi, je voyais le titre avec Marois Risky dans le journal, « Le Québec fou de ses enfants, c'est pas vrai. » On rend fou nos enfants, ça, c'est véridique.
Ça, c'est vrai.
Puis on rend fou les parents, mais c'est vraiment pas aidé, parce que laisser l'argent dans les poches des parents, ils vont entrevoir un avenir pour s'établir, c'est-à-dire maison, école, garderie, tout ça. Ouais. Laisser le privé concurrencer, laisser l'argent dans les poches du monde, laisser les faire leur choix de vie, arrêter de les écœurer puis de les ponctionner, puis vous aurez déjà aidé beaucoup.
Denis Julien, merci beaucoup. Bonne semaine.
Bye, à prochaine.
Et puis bonne tempête, ils sont pas trop, là. OK, bye.
Oui.
Salut, bye. Denis aime ça quand je dis quoi faire.
Ben oui, il écoute tes précieux conseils, sinon il serait sorti dehors tout nu, une chance
ben
qu'il
oui,
est là.
Il est comme
même.
Ça.
Il est de même. Hey, mais juste à dire, nous autres, ça tremblait, là, la terre nous tremblait sous les pieds là, pendant le...
Je sais pas ce qui s'est passé. Hein.
Fait que, d'après moi, il y a des bons coups de vent à l'extérieur du côté de Québec.
Oui, la bâtisse s'est comme mis un peu à soubresauter. Je pensais que... Je pense que je suis plus malade que je pensais. Ouais, là, je l'ai vu à la face, j'ai dit non, je suis pas tout seul.
On s'est regardé, puis là, tu m'as fait, hey, ça bouge. Ouais. Oui, ça bouge.
Sinon, je vais aller à l'hôpital. Parce que ça va pas partout. 14h09, on revient.
Ouellette. Non. En direct.
On revient dans pas long.
Radio X.